Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Brive pour cette foire du livre, si vous nous rejoignez aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue en ce forum Claude Duneton. Je suis Pierre Croze du site Babelio. C'est un site grâce auquel vous pouvez constituer votre bibliothèque ou ajouter des critiques de vos livres préférés ou bien ceux que vous vous serez procurés lors de cette foire du livre. Je vous propose une rencontre intitulée Nos vies. On va en effet parler littérature ensemble, mais on va aussi entrer dans la vie des autrices ou des personnages, des personnes qui sont au cœur de leurs romans, de leurs ouvrages. On va parler, par exemple, d'un enfant sans histoire. Paul, c'est votre fils, Mine Tranui. Bonjour, Mine.
Bonjour.
Il est au cœur de votre récit autobiographique, mais il ne pourra jamais lire ce livre, vous le dites d'emblée. Il est autiste dans une forme grave et c'est votre témoignage que vous livrez, le témoignage d'une mère, d'un enfant autiste, dans une France où les structures d'accueil sont rares et chères, l'accompagnement quasiment inexistant. Et en parallèle de ce témoignage, vous retracez le portrait d'une enfant autiste aux États-Unis, une certaine Temple Grandin. Grandine, je ne sais pas comment on prononce.
Grandine pour les Américains, Grandin pour nous.
Grandin pour les Français, qui est devenue une scientifique de renom. On verra ensemble pourquoi vous avez choisi de lier ces deux parcours dans votre livre. Votre roman s'intitule « Un enfant sans histoire ». Il est publié aux éditions Actes Sud. Vous serez en dédicace toute la journée d'aujourd'hui, de samedi, et dimanche au stand L30. À vos côtés, Brigitte Giraud. Bonjour Brigitte. Vous venez de publier « Vivre vite ». Aux éditions Flammarion, qui vient de recevoir le prix Goncourt. Félicitations pour ce prix. Ce n'est pas votre fils qui est au cœur de ce récit, mais votre mari, décédé dans un accident de moto il y a plus de 20 ans. Vous devez en effet quitter la maison dans laquelle vous vivez et dans laquelle votre mari n'a jamais mis les pieds. C'est avec lui que vous l'aviez acheté, mais ce dernier meurt avant d'y vivre. Vous revenez sur toutes les conditions, tous les détails qui ont, d'une façon ou d'une autre, involontairement permis le drame. Avant de quitter définitivement, vous, cette maison. C'est le portrait de votre mari Claude que vous dressez, mais aussi celui d'une époque, les années 1990. On va en parler ensemble. Donc c'est Vivre vite aux éditions Flammarion. Vous serez en dédicace samedi et dimanche au stand L14. Enfin, on va partir à Amsterdam avec vous, Lola Fond. Bonjour Lola.
Bonjour.
On va partir plus exactement dans la maison Anne Frank, où vous avez passé une nuit. Manu au musée, c'est le nom d'une collection aux éditions Stock. Vous avez passé la nuit donc, dans le musée Anne Frank. C'est dans cette collection que vous publiez votre ouvrage. Quand tu écouteras cette chanson, déjà récompensée du prix décembre, le musée est constitué notamment de l'annexe où Anne Frank et sa famille et quelques autres personnes se sont cachées du 6 juillet 1942 au 4 août 1944. Suite à une probable dénonciation, ils sont arrêtés. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi de passer une nuit dans ce musée précisément et pourquoi aussi il a été aussi difficile pour vous d'entrer dans sa chambre, celle de Anne Frank. Vous serez en dédicace toute la journée d'aujourd'hui, de samedi, au kiosque L11, quand tu écouteras cette chanson aux éditions Stock. Alors j'aimerais vous interroger toutes les trois, tout d'abord sur la naissance de tels récits et de tels livres. Mine Tranui, peut-être pour commencer, vous aviez jusqu'à présent plutôt publié de la fiction, des récits où l'imaginaire était très important. Pourquoi avoir décidé d'écrire directement sur votre propre expérience, sans le filtre, peut-être, de la fiction?
Alors, c'est vrai qu'initialement, je n'ai pas vraiment décidé, en fait, d'écrire un livre de non-fiction sur mon petit garçon. Initialement, j'étais très occupée à vouloir le sauver. En fait, je me disais, je voudrais qu'il accède au langage, je voudrais qu'on puisse l'aider à s'intégrer, à aller à l'école. Je voulais qu'il ait une trajectoire d'enfant neurotypique, comme on dit dans le milieu, si je puis dire. Et quand il est apparu que, d'une part, c'était très compliqué en France de réussir à trouver une prise en charge adaptée, on a 40 ans de retard, alors qu'il y a 700 000 autistes en France, et il y en a 350 000 qui sont comme Paul et qui ne parleront pas. Et donc c'est cette réalité-là et le fait que Paul appartienne à cette catégorie d'enfants qui ne parleront pas, qui peuvent progresser, qu'on peut aider, qu'on peut intégrer, mais qui devra vivre tout de même en milieu protégé, qui fait que j'ai décidé d'écrire le livre. C'est-à-dire que d'habitude, moi ce que j'aime, c'est écrire des histoires d'amour mélangées avec du polar, pour effectivement attirer l'attention du lecteur, jouer avec les genres littéraires, bref, et parler d'exil, en fait, parler de mettre des mots sur le silence. Silence qui est notamment lié, à des problèmes de mémoire, de transmission et d'héritage entre mes parents, qui sont des exilés, et moi-même, qui suis une fille d'exilé. Et quelque part, peut-être que le silence de Paul a trouvé un écho dans cet autre silence-là. Et c'est vrai que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut raconter, en fait, un petit garçon qui ne parle pas, un petit garçon dont on ne sait pas ce qu'il pense, dont on ne sait pas comment il pense, dont on ne sait pas comment il ressent le monde, et sans en faire pour autant une sorte de roman beckettien où on resterait toujours avec la même scène encore et encore. Et finalement, je me suis dit que peut-être le moyen de le faire, ce serait d'utiliser justement les trajectoires de ceux dont on entend parler. Parce que quand on parle d'autisme, aujourd'hui, on pense aux autistes géniaux. On pense aux autistes Asperger qui fascinent, on pense à ceux qui ont des dons mathématiques ou ceux qui ont d'autres dons, d'ailleurs Temple en est une. Et c'est là que je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de tisser deux trajectoires, l'une qui est une trajectoire hollywoodienne, et du coup, vous regardez ça comme on assiste à un film, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une sorte d'incarnation en fait de la réussite avec cette idée que quand on veut, on peut. En fait, c'est un peu l'idéologie qu'on nous vend aujourd'hui. Et de l'autre côté, eh bien, on aura l'histoire, si je puis dire, réelle, celle du quotidien, celle de ce que c'est que de vivre avec ce petit garçon, de comment est-ce qu'on peut l'aider, de tout ce qu'on doit affronter. Et donc, par point contre point, ça va, je pense, tisser une histoire. Et du coup, la fiction dans ce contexte me paraissait déplacée. Parce qu'il existe des romans qui parlent de l'autisme. Bon, y a des gentils petits autistes qui deviennent des espèces de symboles. J'avais pas envie de parler uniquement de symboles. Je voulais parler d'une réalité, qui est une réalité qu'on a vécue de très près, alors qu'auparavant, nous, on ne s'intéressait pas spécialement au handicap, on n'était pas touchés par le handicap, nos proches n'étaient pas touchés par le handicap. Quand je dis nous, c'est mon mari et moi. Et que, en fait, ça nous est revenu en pleine face, tout d'un coup, ce que c'était que de vivre le handicap en France. Et en même temps, je n'avais pas envie, en effet, de faire un pur témoignage, un pur récit qui plomberait et ferait pleurer dans les chaumières. Je voulais qu'il y ait une énergie, je voulais que c'est l'histoire d'un combat aussi, et je voulais donner une portée littéraire à cette histoire. C'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la fiction, pourquoi on se raconte des histoires, qu'est-ce que ça signifie se raconter une histoire, est-ce qu'on existe et est-ce qu'on est humain uniquement à partir du moment où on peut raconter son histoire. Donc il y a aussi tout ce plan-là. Et enfin, il y a un plan qui est inévitablement politique, puisque ça dit où la France, comment la France considère ses citoyens les plus faibles et les plus démunis. Et pour moi, je pense que le degré d'une civilisation, le degré de civilisation d'une société, il se mesure aussi à la façon dont elle traite précisément ses citoyens les plus faibles. Comme il n'y a personne qui parle pour eux, parce que précisément ce sont les plus faibles, j'ai essayé de poser des mots là-dessus pour parce que moi je peux pas parler à la place de Paul, c'est sûr, je peux pas parler en usurpant sa voix, mais je peux parler au plus près de lui.
On reviendra sur certains éléments que vous avez abordés là. Brigitte Giraud, ce livre, il a fallu un déclic, le déménagement peut-être pour l'écrire. Ou est-ce que vous l'aviez aussi en vous finalement depuis 20 ans ce roman?
Bonjour à tous. Oui, c'est un livre que je portais depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que quand l'accident a eu lieu, je savais, il y a eu d'abord un temps de la déflagration, un temps de la sidération, un temps du chaos, d'ailleurs autour duquel j'ai écrit un premier récit 2 ans après qui s'appelle « À présent », publié chez Stock à l'époque. Mais je savais pour autant que le livre, je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas fait le livre parce que je savais qu'il faudrait du temps, je savais qu'il faudrait que je sorte de cette phase, cette première phase de deuil. Et il m'a fallu tout ce temps parce que c'était un livre, évidemment, que je ne voulais pas rater. C'est un livre qui me faisait peur parce que ce serait une recherche de la vérité, essayer de comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu. Mais quand je parle de circonstances, ça veut dire que j'ai su tout de suite que ce qui s'était passé les jours avant, les semaines avant et même les mois avant, rien ne s'était passé comme prévu. C'est pour ça que le livre émet des hypothèses qui commencent tous par « si je n'avais pas voulu acheter la maison », etc. Donc en effet, ce temps a été un peu long parce que la recherche de la vérité est quelque chose qui peut faire peur. Ça peut être effrayant, puis il fallait que je sois à la hauteur. Il fallait que je sois à la hauteur de l'histoire d'amour, parce que c'est aussi un livre d'amour. Il fallait que je sois capable de passer du temps avec cet homme par le biais de l'écriture. C'est aussi le portrait d'un homme. Et puis il fallait que je mette l'enquête. Ce livre est une très large enquête, à la fois sur ma vie, sur nos vies, et sur nos vies intimes. Mais comme je le dis, l'intime pour moi n'a de sens que quand il résonne avec le collectif, avec une société, avec une époque, voilà, avec les autres, la même chose que les livres de Mine et de Lola. Je crois qu'on est dans des livres à la fois intimes et très politiques. Et le déclic, en effet, ça a été le moment où les promoteurs ont commencé à être de plus en plus pressants dans le quartier dans lequel je m'étais installée, hélas sans Claude, puisque l'accident a eu lieu 3 jours avant l'emménagement. Et les promoteurs, ça je pense que c'est quelque chose qui est valable dans toutes les villes de France et d'Europe et quasiment du monde entier en ce moment. Et au moment où il a fallu que je imagine que j'allais devoir quitter les lieux, je ne trouvais pas la forme à ce livre. Et là, ça m'a donné une forme parce qu'il y a une telle énergie qui a refait un lien avec une colère un peu plus ancienne, pas très ancienne, mais une colère malgré tout. Et quand on quitte un lieu, comme vous le savez bien, il faut d'une part être capable de se projeter psychologiquement vers un ailleurs, mais vers quel ailleurs, quand on n'a pas choisi. Puis d'autre part, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Le concret, c'est de se dire tout simplement, qu'est-ce que je mets en carton, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, comment je trie, et qu'est-ce que je garde aussi des affaires de l'autre. Et les affaires de l'autre, je termine avec ça, comme il était musicien, il y a pas mal d'instruments de musique, il y a une grande collection de disques, et donc c'est une vraie question, ça a été le déclic.
C'est un roman très musical d'ailleurs, hein. Il y a énormément de citations, de groupes de musique, lyonnais aussi pour certains.
Ouais, il y a toute une BO en fait.
Il y a toute une BO effectivement, on pourrait faire une liste sur les réseaux pour la musique. On va revenir aussi sur certains autres éléments que vous avez abordés sur le sens, sur l'intime et sur le collectif. Lola Lafont, sur votre livre, vous pouviez passer une nuit dans n'importe quel musée du monde, alors je m'avance peut-être, mais en tout cas c'est le sens de la collection, c'est de proposer à des auteurs de passer une nuit dans un musée. Pourquoi avoir choisi le musée Anne Frank, alors que vous dites vous-même d'ailleurs dans le livre que finalement Anne Frank, vous la connaissiez pas si bien que ça et que d'ailleurs l'humanité peut-être ne la connaît pas si bien que ça.
Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que vos discours résonnent à toutes les deux parce que je pense que ce livre je le portais depuis une dizaine d'années et que j'ai écrit ce qui me faisait peur. Donc c'est là où je me reconnais, c'est-à-dire que à un moment donné, je me suis posé la question de, puisque je pense 90% de ma famille est morte pendant la Shoah, et que vraiment la généalogie est quelque chose dans ma famille qui est intangible, c'est-à-dire qu'il y a si une famille est un livre, il manque des chapitres entiers. Et je sais depuis toujours qu'il y a l'impossibilité de retracer ces vies-là, parce que quand on est né en Russie ou en Pologne et qu'on meurt dans les convois qui menaient à Auschwitz, on ne peut pas tout savoir. Et donc, il y avait ce vide, donc l'idée n'était pas de retrouver, mais de me pencher sur... voilà, comment accepter le fait de venir de l'absence, comment se bâtir sur le vide, sur l'absence, comment on grandit quand on n'a pas derrière, je dis des choses moi qui me fascinent complètement, les maisons de famille, ça me fascine, les gens qui peuvent parler de leurs arrière-grands-parents, qui parlent d'une tradition, oui, mais oui.
Les gens qui ont des racines,
oui, c'est
extraordinaire.
C'est quelque chose qui est totalement fascinant parce que je ne peux pas savoir, il y a une sorte d'abîme. Donc, j'ai choisi le musée Anne Frank, ou plutôt, il s'est imposé à moi totalement. Et je me suis pas dit, tiens, va faire quelque chose qui te fait peur, mais c'est ce qui s'est passé. Finalement, je me suis mise dans une situation intenable, de m'enfermer toute une nuit à l'endroit même où, à la fois, ils ont été... Puisque l'annexe, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'annexe, moi, j'étais dans l'annexe, c'est les combles, le petit appartement où la famille Franck et une autre famille se sont cachés pendant 25 mois. Et finalement, c'est un appartement où les gens ne sont plus là. C'est ça, en fait, l'annexe. C'est le vide, c'est l'absence, c'est la question de l'absence de ces millions de gens. Et je me suis effectivement mis comme ça, face à face, pendant 10 heures. Je ne m'attendais pas à ce qui a surgi dans le livre, évidemment, parce que sinon, ce n'était pas la peine d'y aller. Et ce que j'ai découvert, surtout, c'est, comme vous le dites, une Anne Frank que je ne connaissais pas, que dont on parle peu. J'ai découvert, parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres avant d'aller dans l'annexe, j'ai rencontré une des dernières personnes en vie à avoir connu, à avoir été très proche des sœurs Franck, Madame Laurine Nussbaum, et j'ai compris qu'Anne Franck n'était pas une petite jeune fille qui avait écrit son journal, mais une autrice, une écrivaine, quelqu'un qui avait fait une œuvre. Donc voilà.
Donner un mot à ce qui n'est pas dit, au silence, un mot que vous avez utilisé, c'est quelque chose qui vous réunit tous les trois, qui vous réunissait dans vos envies d'autrice, de donner un mot à ce que vous disiez, voilà, vous n'êtes pas le porte-voix forcément de votre enfant, mais de trouver des mots sur le silence.
Oui, alors c'est vrai que c'est amusant parce que les hasards font que Lola, moi-même et Brigitte, nous nous connaissons. Et que nous nous lisons, que nous avions déjà lu nos livres avant aujourd'hui et qu'on avait été déjà frappés par des connexions qui existent entre notre préoccupation, et l'une d'entre elles, c'est en aimer en effet des mots sur le silence. Après, je pense que c'est une préoccupation littéraire de manière générale. Voilà, les auteurs, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche une forme. On cherche une forme pour justement ordonner, donner sens aussi à quelque chose qui relève de l'indicible, qui relève de l'impossibilité de dire. Ça peut être un deuil qui est impossible, ça peut être la Shoah, fort modestement, ou ça peut être effectivement, dans mon cas, le silence de ceux qui ont vécu des tragédies dans le passé, ou d'un enfant dont on ne saura jamais ce qu'il pense et pour lequel on se bat pour le protéger. Et à chaque fois, il y a, je pense, un aspect qui est très intime dans tous nos livres. La famille de Lola est intimement liée à la Shoah. Évidemment, dans le cas de Brigitte, c'était l'amour de sa vie qui a disparu. Et dans mon cas, c'est donc mon petit garçon. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du deuil impossible. Et en même temps, et parce que normalement, le discours qu'on nous tient aujourd'hui, c'est celui de la résilience, de
on passe. C'est un terme qui revient de manière assez fréquente. Ouais.
Voilà, je ne supporte plus personnellement. Mais bon, je comprends qu'il faut passer à autre chose dans la vie, etc. Mais effectivement, on nous parle beaucoup de résilience, et avec tout mon respect pour Boris Cyrulnik, voilà, l'idée qu'on peut survivre à tout, qu'il faut aller mieux, etc. Après, je pense que ces livres sont sur le deuil impossible. Paradoxalement, peut-être qu'ils permettent aussi de le faire. Enfin, ça, c'est Brigitte et Lola qui en parleront pour elles-mêmes. Moi, c'est sûr que je me disais que l'une des frustrations lorsque je parlais de Paul, c'est quand j'avais l'impression soit de donner une leçon sur l'autisme à mes amis, soit je leur racontais des épisodes, parce qu'en fait, c'est à la fois une vie répétitive, mais il y a toujours de nouvelles aventures. Il y a toujours des péripéties inouïes qui nous arrivent, et on dirait à la fin que c'est presque effectivement une série télévisée. Et donc je me disais, mais voilà, comment est-ce que je peux réussir à la fois raconter l'histoire de Paul, à lui donner une existence, à lui rendre son humanité, parce qu'évidemment ce qu'il y a au cœur du livre, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon d'être humain. Il y avait aussi l'idée de dire ce que nous on avait vécu, parce que même nos amis qui nous ont suivis de très près, c'était compliqué de leur expliquer, ou c'était parfois d'ailleurs déplacé de leur expliquer. Donc comment est-ce qu'on pouvait aussi raconter l'histoire de ce couple, l'histoire d'une famille, ensuite et finalement l'histoire de l'autisme, l'histoire de la France par rapport à l'autisme. Et donc je me suis dit, et tout ça dans un truc digeste qui fasse, allez, là ça fait 200 pages. Bon. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée de est-ce qu'on peut du coup aussi. Enfin, moi je suis comme Lola, je me suis construite sur du silence. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit. Je pense que c'est parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui n'a pas pu être dit et que nous, on a été saisis du désir d'essayer de dire. Et donc, comme je le disais, je viens d'un exil, je viens d'une famille où on ne parle pas. Je viens d'une famille qui a vécu beaucoup de tragédies. C'est vrai que, voilà, par exemple, mon père, à 7 ans, il a vu son propre père et son grand-père assassinés. Et ensuite, il a dû fuir la maison où ils habitaient. Et moi aussi, j'ai une obsession des maisons, comme Lola. Et, toutes les maisons où mon père a vécu, dans son enfance, elles ont été détruites, en fait. Elles n'en existent plus et on ne peut plus en revoir aucune. Et donc, lorsque je pense qu'on vient d'une histoire de ce type, où les gens ne parlent pas, où les gens ne racontent pas, et même par rapport, par exemple, mes parents, par rapport à Paul, n'ont pas su comment réagir, mon petit garçon, n'ont pas su comment réagir non plus vraiment par rapport à ça, eh bien, je pense qu'il y a une invitation, effectivement, à poser des mots. Après, comme je le disais, je pense qu'il y a une portée qui peut être thérapeutique, personnelle, mais qui n'est pas très intéressante. L'intérêt, j'espère en tout cas qu'il y a cet intérêt dans ce livre, c'est d'en faire en effet une histoire collective qui fasse que des gens qui sont concernés soient intéressés évidemment, mais que des gens qui n'ont rien à faire ni de l'autisme, ni du handicap, ni du deuil d'un être aimé, alors, la Shoah quand même, ça me paraît vaste, mais en tout cas et puis pareil, Anne Frank, elle est quand même assez connue, mais puissent du coup se sentir concernés. Comment est-ce qu'on fait pour que des personnes qui ne sont pas concernées a priori par votre histoire viennent, se l'approprient, en ressentent une émotion et intense, et peut-être même ça change leur, parce que je pense que finalement l'écriture est une affaire de regard, c'est changer le regard qu'on a sur le monde. Et du coup, faire venir, advenir au jour aussi, ben, des pans de réalité qui sont soit cachés, soit dissimulés, soit qui ont été écartés en fait de la façon dont on voit les choses au quotidien.
Et dans la façon d'aborder, alors justement peut-être le deuil, c'est quelque chose qui revient aussi dans les critiques, c'est le fait que c'est pas l'art moyen, c'est pas une histoire, c'est une histoire évidemment triste, mais il y avait une volonté de votre part de pas être dans le pathos. Dans la façon d'écrire ce roman ?
Alors en fait, c'est pas, évidemment, c'est un livre qui parle de l'homme de ma vie qui est mort tragiquement, mais ce que je voulais faire surtout, c'était une reconstitution, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé avant. Donc c'est un livre qui parle de la vie, qui parle de 20 ans de vie.
Il y a au moment aussi,
où
d'ailleurs.
On est, il y a aussi de l'ironie, forcément. C'est pour ça qu'il fallait que je prenne le temps d'écrire ce livre, que je sois à la bonne distance, pour reprendre aussi la maîtrise. Et si ce n'est pas la maîtrise de son propre destin, c'est au moins la maîtrise de l'écriture. Comment on raconte et comment on fait des liens entre les différentes choses qu'on va mettre en scène. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la notion de destin, d'essayer de voir si, dans tout ce qui s'était passé avant, c'était écrit. Il y a le mot mektoub qui veut dire
revient.
C'était écrit. Est-ce que cette histoire était écrite ? Est-ce qu'on a un libre arbitre et une liberté de contrôler plus ou moins nos existences ? Le mot accident, l'étymologie du mot accident, ça veut dire ce qui tombe par hasard. Là, c'est l'histoire d'un homme qui tombe. C'est un accident seul qui n'a pas d'explication. Moi, j'ai eu un rapport de police qui donne très peu d'éléments, qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et ce qui tombe par hasard, le hasard, c'est aussi un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire jeu de dés. C'est un jeu de dés dans les pays arabes. Donc, à partir de ces deux mots qui m'ont beaucoup obsédée et ces images très fortes, en fait, le livre est construit sur une suite d'hypothèses. Ce sont 23 hypothèses qui commencent toutes par ainsi. Si je n'avais pas voulu acheter cette maison qui n'était pas à vendre, si je n'avais pas eu les clés à l'avance, si je n'avais pas changé la date de mon déplacement à Paris, si j'avais passé le coup de fil que j'aurais dû passer. Et vous savez bien, quand il se passe une catastrophe, plus ou moins grave d'ailleurs, ou même une chose très heureuse, c'est-à-dire même deux personnes qui ne devaient pas se rencontrer, qui se sont rencontrées, qui sont tombées amoureux et qui ont passé une vie magnifique ensemble, on se dit, mais si je n'avais pas pris ce train à ce moment-là, s'il avait plu, etc. Donc le livre fonctionne de cette façon, c'est un compte à rebours qui va jusqu'au moment fatal, mais qui me permet aussi de chercher, de trouver des partenaires. Parce que je parlais, ce qu'on disait toutes les trois, c'est que l'intime n'a pas de sens s'il n'est pas relié au collectif et à une société. Moi, c'est vraiment un livre qui est le portrait aussi d'une société, d'une époque, et en lien avec la petite histoire et la grande histoire. C'est l'histoire de chacun, mais aussi l'histoire qui nous dépasse. Ça me permet de questionner, par exemple, cette moto. Pourquoi, ce matin-là, Claude a pris une moto qui n'était pas la sienne en mon absence, qui était une moto fabriquée au Japon par un fabuleux ingénieur, Tadao Baba, J'ai enquêté, je suis tombée en admiration par ce magnifique ingénieur qui, lui, a fait exactement ce que la firme Honda lui demandait de faire. Et je découvre que cette moto est interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, réservée à l'exportation, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une façon de voir aussi pourquoi le Japon, qui est à 10 000 km de mon point d'existence, est finalement un pays qui va venir percuter et couper ma vie en deux. L'accident a lieu à Lyon sur un boulevard devant l'hôtel 5 étoiles de Reine Astrid. J'enquête aussi, je me dis, mais Reine Astrid, je passe devant tous les jours. Finalement, je ne sais pas qui elle est. Ça me permet d'enquêter en cherchant, parce que j'ai besoin de ne pas être seule face à ce coup du sort, si on peut dire. Et je me rends compte que la Reine Astrid elle-même est morte dans un accident de voiture à 23 ans, voiture conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique. Alors je me dis, la Belgique, le Japon, Claude était né en Algérie. L'Algérie, ça commence à faire une espèce de grand maelstrom totalement, totalement fou. Et le livre fonctionne de cette façon. On a Paco Rabanne qui surgit aussi parce qu'il y a l'éclipse juste après l'année 1999. Et je me dis, tiens, mais ce Paco Rabanne qui annonçait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la fin du monde. Et tout le monde se moquait totalement de lui. Et moi, j'étais la seule à espérer qu'il aurait raison, parce que je me disais, si on disparaît, qu'on disparaisse tous, que je ne reste pas seule avec mon homme qui vient de mourir. Et je me rends compte que Paco Rabanne, j'entre dans la vie de Paco Rabanne, et c'est fabuleux. Lui-même vient d'Espagne, son père fusillé par les franquistes quand il avait 8 ans, l'âge où mon fils perd son père, etc., etc. Et tout fonctionne comme ça, et ça me permet de me sentir un tout petit peu moins seule, ça permet d'essayer de trouver du sens là où il n'y en a pas, et cette façon d'écrire, je me suis rendu compte après, mais c'était presque une façon de faire en sorte que l'histoire trouve une autre issue, comme une conjuration du sort et comme une possibilité de conjuration impossible, c'est ça. L'écriture avec ça peut-être une forme de puissance, mais aussi une forme d'impuissance.
Alors l'impuissance, c'est un terme qui revient dans votre livre d'ailleurs, Lola Lafont. Écrire n'est pas tout à fait un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait pas par quel autre biais attraper le réel. C'est vraiment une des clés du livre ?
Oui, parce que finalement, à partir du moment où je suis rentrée dans l'annexe, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. C'est que moi, j'étais dans la chambre des parents et de la grande sœur, Margot Franck, et juste à côté, il y avait la chambre d'Anne Franck. Et j'étais là pour toute la nuit, donc évidemment, je devais aller dans la chambre d'Anne Franck, et ça a été impossible. Impossible d'entrer dans sa chambre. Alors, sa chambre, en fait, ce qui a été conservé, ce sont toutes les images qu'elle a collées au mur. Et évidemment, c'est une chambre absolument banale d'adolescente. Il y a des images d'actrices, il y a des images de princesses. Elle avait une image de la reine Elisabeth II à 12 ans, parce que ce qui s'appelait pas évidemment la reine Elisabeth II. Et moi, je me suis arrêtée à cette porte, et tout d'un coup, j'ai eu la sensation, qui n'était pas du tout celle d'un truc surnaturel, mais j'ai eu la sensation que c'était étrange de vouloir absolument rentrer dans la chambre d'une adolescente qui ne nous l'a pas demandé, parce que finalement, Anne Frank, comme me disait Laurine Nussbaum, dont je parlais tout à l'heure, et c'est très important dans ce projet, elle voulait être lue et pas vénérée. À partir de ce moment-là où je n'arrive pas à rentrer dans la chambre, et pendant toute la nuit, je tourne autour, je vais partout, je me suis posé la question de cette jeune fille adorée du monde entier, mais pas que, haï aussi, qui est une cible des négationnistes très importante. C'est-à-dire que depuis l'apparition du journal, les négationnistes ne cessent d'essayer de prouver que c'est un faux. Il y en a un qui a même attaqué son père, Otto Frank, en procès pour usage de faux, ce qui veut dire la haine qu'elle déclenche. Mais cet amour, en fait, je me suis posé la question de pourquoi on l'aime tellement. Est-ce que cet amour n'est pas aussi une prison ? J'ai découvert des choses que je n'imaginais pas, c'est-à-dire que cet amour fou pour Anne Frank, c'est aussi son journal a été extrêmement maltraité. À partir du moment où il a été publié, si les éditeurs néerlandais ont voulu couper toutes les pages sur sa sexualité, les Allemands, eux, ont demandé que soit coupée toute, c'était dans les années 50, que soient coupées les pages qui pourraient offenser le peuple allemand. Vous imaginez ce qui pouvait offenser les Allemands. Toutes ces mentions de l'antisémitisme, toutes ces mentions des nazis ont été enlevées de l'édition allemande. Après, elles ont été réintégrées. Quand le livre a été traduit aux États-Unis, Hollywood et Broadway s'en sont emparés. Et là, un producteur s'est dit, mais ça fera un succès mondial, simplement, comme il a dit lui-même, c'est trop triste et trop juif. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il a engagé des scénaristes spécialistes des comédies familiales et il a demandé qu'on réécrive le journal. Donc ils ont supprimé les quelques passages où elle fait allusion à la religion. Ils ont supprimé les mentions, sa terreur des nazis ont été supprimées. La pièce qui a été jouée à Broadway ne voyait pas un seul uniforme nazi monter sur scène. L'arrestation n'avait pas lieu. Le film a été une catastrophe encore plus grande de réécriture. Il fallait que ça soit un récit universel parce que l'idée, c'était la réconciliation. Donc, au nom de cet amour, ce que j'ai découvert, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui peut aussi réécrire une personne. Et ça, ça a été vraiment, je dirais que ma... Ça, c'est un terme un peu étrange, mais ma mission. En tout cas, l'obligation pour moi était de me pencher sur cette question sur qu'est-ce qu'on a fait d'elle ? Qu'est-ce qu'on a fait d'elle ? Et d'essayer de revenir à cette jeune fille surdouée qui écrit un récit alors qu'elle est enfermée, alors qu'il faut quand même le rappeler, dans l'annexe, comme c'est au-dessus de la petite entreprise d'Otto Frank et qu'il y a des employés qui ne sont pas au courant qu'ils sont là, entre 8h du matin et 18h, ils ne peuvent ni marcher, ni faire couler de l'eau, ni parler. Et la seule chose, c'est le silence, la lecture et l'écriture. Et je voulais vraiment essayer de retrouver cette figure de jeune fille autrice. La question la plus déchirante, finalement, ce sont les livres qu'on ne lira pas d'elle. C'est l'écrivaine qu'on a plus. Et voilà.
Ce sont, alors on ne parlera pas de résilience, mais ce sont des romans de, ce sont des romans pour vous aussi d'une certaine manière de libération. Vous avez réussi à, non pas à clore un chapitre ou quoi que ce soit, mais tout de même, à, est-ce que ça aide d'écrire les livres que vous avez écrits dans vos quêtes personnelles aussi, dans votre vie ?
Je pense que je n'écris pas pour que quelque chose m'aide, mais j'écris pour que ça ouvre des questions. Et la question, c'est vraiment celle de ces figures comme ça mondialement connues et dont on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas du tout.
Et c'est ce qu'on retrouve dans votre
œuvre. Oui, c'est avec La Petite Communiste, finalement, et Nadia Comaneci, je m'étais rendu compte qu'on ne la connaissait pas du tout. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est aussi cette passion pour les adolescentes. Là encore, c'est une jeune fille qui va cristalliser trop de choses. C'est pour ça que cette chambre... Elle est à la fois, on a l'impression quand on rentre dedans de profaner quelque chose parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on vient faire tous, les adultes, à rentrer dans cette chambre d'adolescente et est-ce que le cœur de cette histoire, ce n'est pas plutôt dans ce qu'elle a écrit, en fait. Mais je ne vous ai pas répondu, mais voilà.
Mais je vais poser la question à vos deux autres autrices.
C'est une question délicate. C'est vrai que lorsqu'on écrit le livre, alors c'est vrai que dans le cas de Lola, voilà, c'est sur Anne Frank, donc c'est pas une thérapie de toi-même, de ta vie, même si quand même sur les, je pense, sur ton rapport à la religion et à la Shoah, il y a peut-être quelque chose qui quand même...
Oui, de finalement de me réconcilier effectivement avec
une part de toi-même. Avec une part de toi-même.
Oui. Et de pouvoir dire... Ouais. Je vous en prie.
Non, si je peux me permettre, et puis on n'en parlera pas de la fin du livre, mais il y a la fin du livre, voilà,
mais
sans dire de...
On va spoiler.
L'explication du titre. Oui, c'est vrai.
Ça vous a permis de dire des choses que vous n'aviez
absolument pas
la possibilité de dire peut-être.
Alors là, pour le coup, oui, c'est vrai que finalement, ça m'a fait un drôle d'effet. Je ne sais pas pour vous, parce que j'ai révélé ce qui explique le titre, une histoire. C'est complètement fou de faire ça, que seules 3 ou 4 personnes connaissent autour de moi. Et maintenant, quand je reçois des messages qui me parlent de... Parce qu'il y a la figure d'un jeune homme que j'ai connu enfant qui surgit... voilà, je ne vais pas vous raconter parce que je ne veux pas. Je me dis, mais à la fois, c'est merveilleux de partager, parce qu'il y a son vrai nom, il y a le vrai nom de ma grand-mère, ça avec tellement de gens, à la fois, c'est fou. C'est fou.
Moi, je dirais que l'écriture n'avait pas du tout d'usage thérapeutique originellement. Il y avait vraiment l'idée de faire œuvre. J'ai pris vraiment un intérêt... Par exemple, même à décrire l'histoire de Temple, de voir que, de m'attacher en fait presque scientifiquement à la façon dont fonctionne son cerveau, le cerveau de mon fils, notre cerveau. Il y a cette idée de tisser aussi des échos entre les histoires, donc comme une composition musicale, mais Brigitte et moi, on a beaucoup en commun. Et l'idée de, donc il y avait vraiment plutôt l'idée de trouver une forme, que je le disais tout à l'heure. Mais je me suis aperçue qu'en effet, finalement, ça avait eu un usage thérapeutique un peu malgré moi. C'est-à-dire que c'est un livre qui raconte beaucoup de douleurs. Mais en fait, aujourd'hui, on est heureux. Voilà, on est heureux avec... Donc là, j'ai l'impression de raconter un truc Disney. Hein. Enfin, c'est horrible. Voilà, c'est là, oui. En fait, moi qui étais là, je déteste la résilience. Bon, en fait, finalement, ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai écrit ce livre. Nous sommes réconciliés avec le monde. D'ailleurs, on va bientôt faire un pèlerinage zen. Voilà. Non, en fait, il y a... Déjà, par exemple, j'ai pu y insérer ce à quoi je tenais. Des touches d'humour. En fait, mon mari est quelqu'un de très drôle. Donc, la façon dont il a vécu ça est à la fois très douloureuse, mais il n'a jamais perdu son humour tout au long de cette histoire. Et c'est vrai que je me suis aperçue que, par exemple, bon, c'est un livre qui a suscité énormément de réactions autour de moi. D'ailleurs, à ma gauche et à ma droite, il y a eu des réactions. Et Brigitte est l'auteur... Brigitte est une merveilleuse autrice, mais c'est aussi une merveilleuse lectrice. Et elle a trouvé quelque chose qui était que dans Temple, donc ce personnage de Temple Grandine, on entendait, c'est les vertus de l'onomastique, Temple. Voilà. Et elle a tout à fait raison. Voilà. Je ne l'avais pas trouvé moi-même, mais je suis très heureuse qu'une lectrice l'ait trouvé pour moi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a... Je me suis aperçue en écrivant le livre et en recevant tous ces messages, tous ces témoignages de gens que je connaissais parfois très bien, ou de gens que je connaissais pas du tout, mais pour lesquels j'avais une grande estime, et bien que effectivement il y avait une forme de consolation, il y avait une forme de réconfort. Ça change pas la situation de la France, ça change pas la situation de Paul. Je pense pas que les livres changent le monde, mais ils changent, comme je le disais, le regard qu'on porte sur lui. Et parfois, bon, bah par exemple là, il y a un membre du gouvernement qui a demandé à me rencontrer. Voilà, donc il y a des possibilités. Bon, après, je pense qu'il aurait fallu que j'aie le Goncourt pour que ça fasse vraiment, vraiment, tu vois, vraiment, qu'il y ait vraiment un événement.
Mais je peux prendre le relais.
Je compte sur toi. Voilà. Et alors, je sais pas pour Brigitte, mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre du deuil impossible dans nos livres. Et paradoxalement, si, ça nous aide quand même à surmonter ce deuil, parce que donner une forme à ce deuil, eh ben, c'est déjà un premier pas. Et de toute façon, les livres, ils sont écrits pour qu'on se relie aux autres et pour que vous reliez à nous. Bien sûr, on veut faire œuvre, bien sûr, on veut faire une œuvre d'art, mais l'œuvre d'art, elle n'a pas de sens si jamais vous ne la lisez pas, si jamais vous ne la contemplez pas et si jamais vous ne vous joignez pas à nous dedans. Donc, il y a quand même, et je suis obligée de le reconnaître, une forme d'usage thérapeutique dans l'écriture, mais vraiment, je le reconnais vraiment malgré moi. Mais rien que... Par exemple, j'étais invitée sur 28 minutes et juste, donc on m'a demandé si jamais je pouvais donner des images de Paul. Et donc, Elisabeth Quint d'ailleurs a cité Brigitte Géraud pour lancer l'interview en disant Temple et Temple, c'est la première chose qu'elle m'a dite. Et juste voir le visage de Paul et de voir des gens qui m'en ont ensuite parlé, eh ben, je me suis dit, mais en fait, maintenant, il existe et il n'existe pas que pour nous. Et je suis obligée de reconnaître que c'est une joie.
Vous vous reconnaissez dans cette idée-là de, alors je sais pas, de thérapie peut-être pas, mais de libération, de...
Alors peut-être pas de libération, je sais pas s'il y avait quelque chose à libérer, mais en tout cas, moi, ce que m'a permis le livre, c'est de faire des liens, comme je disais tout à l'heure. Ça m'a permis aussi de prendre le temps de regarder un homme vraiment, avec qui j'ai vécu plus de 15 ans. Mais quand on vit avec quelqu'un au quotidien, est-ce qu'on prend le temps de regarder vraiment et de comprendre vraiment
qui est l'autre ?
C'est héros,
par exemple, la musique qu'il écoute.
Donc là, voilà, c'est-à-dire de m'approcher. Là, j'avais le temps de l'écriture. L'écriture est le seul moment où on s'arrête, où on prend le temps et on essaye de regarder, de comprendre. Donc c'est assez vertigineux parce que forcément, c'est ce qui en découle, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai été suffisamment là, suffisamment présente, suffisamment... attentive. Et puis, je vais vous donner deux exemples qui sont importants pour moi. Le livre m'a permis évidemment de comprendre tout un tas de choses parce que l'écriture permet de faire émerger, comme le disait Lola, on cherche quelque chose et ce qui émerge, évidemment, c'est autre chose. Par exemple, je regarde dans chacun de ces petits chapitres. Le premier chapitre, c'est si je ne m'étais pas entêtée à vouloir acheter cette maison qui n'était pas à vendre. Donc j'essaye de voir pourquoi je voulais absolument ce que j'appelle nos folies immobilières, c'est-à-dire c'est-à-dire visiter des lieux, visiter des apparts, etc., jusqu'à trouver le lieu idéal. Et je me rends compte qu'acheter une maison, c'est pas forcément l'idée de posséder, c'est pas forcément cette chose idéologique qu'on peut imaginer. Mais là, je me rends compte que nos ancêtres, et pour Claude, qui dans la famille a été chassé d'Algérie, etc., a toujours vécu l'exil, que de mon côté, il y a eu des exodes, exil et expropriation en veux-tu, en voilà. Et je me dis que finalement, acheter une maison, ça peut être inconsciemment une génération, deux ou trois générations en dessous, des jeunes gens qui vont avoir le besoin de s'ancrer quelque part. Donc je fais cette découverte. Et puis, juste un autre petit exemple, à un moment, je suis à Paris. C'est le 21 juin au soir, donc c'est la veille. Je dois passer un coup de fil qui aurait sans doute fait que les choses se seraient déroulées autrement. Je suis chez une amie, elle me raconte sa nouvelle histoire d'amour. On est en train de boire du Bartini, on est en pleine régression de copines qui se retrouvent. Je dois passer ce coup de fil et je vois le téléphone dans un coin de la pièce. C'est juste avant le téléphone portable. Je ne passe pas ce coup de fil. Et là, l'écriture me permet de faire émerger les véritables raisons, qui sont un croisement de raisons tout à fait complémentaires et différentes les unes des autres, qui font qu'à un moment, on doit faire quelque chose. Puis vous savez, les coups de fil, souvent, on se dit « Oh, j'appellerai demain », parce qu'il faut de l'énergie, et parce qu'on était aussi dans une époque, fin des années 90, où ont émergé ce qu'on a appelé les « nouveaux pères ». Tous les journaux titraient avec les nouveaux pères qui étaient sommés de prendre une place nouvelle dans leur couple et auprès de leurs enfants, qui devaient assister à l'accouchement, qui devaient donner le biberon, changer les couches, faire tout un tas de choses. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui m'a traversée de cet ordre-là, de me dire « mais laisse les garçons ensemble », peut-être un élan féministe, enfin tout un tas de choses qui est dans ce petit chapitre et que j'ai découverte véritablement en écrivant, parce que écrire, c'est vraiment mettre à jour.
Chacun de tes chapitres, c'est un monde, en fait.
Oui, chaque petit chapitre est un monde, mais un monde qui concerne tout le monde, justement.
Brigitte Giraud, Vivre vite aux éditions Flammarion. Vous serez en dédicace samedi et dimanche, stand L14. Merci beaucoup, Lola Lafont. Quand tu écouteras cette chanson, Manu au musée aux éditions Stock, vous serez, quant à vous, en dédicace toute la journée d'aujourd'hui au kiosque L11. Et Mintra Nuit, un enfant sans histoire aux éditions Actes Sud. Vous serez en dédicace, quant à vous, samedi et dimanche au stand L30. Merci à toutes les trois.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup. Bonne soirée de livre.